Le sensuaire est une provocation à l'intelligence. C'est ainsi que Jean-Paul II, le 24 mai 1998, invitait la communauté scientifique à poursuivre ses recherches sur le suaire de Turin. Le dossier semblait pourtant clos. En 1988, une datation au carbone 14 situait l'origine du suaire au Moyen-Âge. L'opinion publique opina, mais pas la communauté scientifique.
La datation carbone 14 a quelques biais, quelques problèmes.
Thierry Castex.
Les tissus qui ont été analysés sont peut-être pas représentatifs du linceul. Il y a eu des pièces qui ont été raccommodées. La méthode qui avait été utilisée pour la datation n'était pas irréprochable, donc il serait intéressant de refaire cette datation.
Je vous propose donc de rouvrir l'enquête en commençant par les premiers témoins de l'histoire, les premiers à avoir aperçu l'inculpé.
On attribue souvent le premier détenteur du linceul de Turin,
Sébastien Cataldo,
comme étant donc Geoffroy Ier de Charny, chevalier qui est mort en 1356. En fait, le linceul apparaît par l'intermédiaire de sa veuve, Jeanne de Vergy, en 1357, qui, elle, commence à faire les premières ostensions du linceul à Liray, en Champagne. Dès les années à peu près 1360, l'évêque de Troyes, qui est Henri de Poitiers, déclare que ce linceul est un faux et il interdit les ostensions. Finalement, à la mort de cet évêque, Jeanne de Vergy reprend les ostensions vers 1389. De nouveau, ces ostensions sont annulées par l'évêque successeur d'Henri de Poitiers, Pierre d'Arcy. Et les ostensions, en fait, reprennent très rapidement puisque le pape Clément VII intervient directement en autorisant les ostensions donc du linceul et dans une bulle de 1390, précise que ce linceul et surtout l'image qui est dessus n'est qu'une représentation du Christ. En 1453, Marguerite de Charny cède discrètement au duc de Savoie le linceul. Quelques années plus tard, le linceul se retrouve dans les années 1500 à Chambéry, où il est exposé, les ostensions sont faites régulièrement. En 1578, la relique est définitivement installée à Turin, qui est en fait devenue la capitale des ducs de Savoie. En 1983, le roi Umberto II cède le linceul au Vatican, qui en devient donc propriétaire.
Les témoins nous en disent décidément trop peu. Il nous faut repartir des indices, de ce que l'on sait de l'inculpé.
C'est un tissu de lin ancien, qui a une forme un peu jaune paille. Et on voit dessus la représentation d'un homme, tête bêche, c'est-à-dire il y a une face dorsale et ventrale. Et dessus, on voit déjà des traces de flagellation sur le dos, sur les jambes. On voit aussi du sang qui coule autour de la tête. On voit aussi qu'il a le long des bras des écoulements de sang, avec des taches de sang importantes au niveau des poignets, donc ce qui montre que c'est l'image d'un supplicié, d'un crucifié.
C'est bien maigre. Heureusement, les méthodes d'investigation scientifique vont au-delà du visible, nous révèlent ce qui ne se voit pas.
Bon, déjà, on voit que c'est un négatif. Donc on voit bien le corps en faisant le négatif de négatif. Et puis, depuis que les gens ont étudié cette image, la façon dont l'image s'est faite, finalement, en regardant de près, il y a une roussissure des fibres de lin. Et autour des fibres, il y a des fibrilles. Et bien, ce sont ces fibrilles-là qui sont roussies. Et ils sont roussies d'une certaine façon. C'est-à-dire que là où il y a de l'image, la roussissure est importante. Il y a une densité de fibres roussies plus importante. Et quand l'image est claire, il y a beaucoup moins de fibrilles roussies. Et en 1978, l'équipe du STURP, une équipe américaine, est venue à Turin et ils ont analysé la possibilité que l'image soit tridimensionnelle. C'est-à-dire qu'avec une caméra qu'ils utilisaient à la NASA, ils ont scanné l'image du linceul pour voir s'il y avait une troisième dimension dans l'image. La surprise, ça a été que cette caméra VP8 a révélé la tridimensionnalité de l'image. L'image est sortie en trois dimensions. Le cramage des fibres est proportionnel à la distance entre le tissu et le corps. C'est-à-dire quand le tissu touche le nez, sur l'image, les fibres sont sur une densité de lumière assez forte, et les orbites des yeux, par contre, sont plus faibles.
Sans compter que nos enquêteurs, passionnés d'archéologie, spécialistes du traitement de l'image, multiplient les découvertes.
En traitant l'image avec des outils issus des images sismiques, on arrive à récupérer des défauts de l'image. Par exemple, on peut enlever la trame du tissu, on peut enlever ce qu'on appelle des chevrons, des formes en W inversé, on appelle ça du tissu sergé en 3-1, ça fait un peu des écailles de poisson. Et là, on découvre tout un tas de choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. On a découvert les écritures, donc on n'est pas les premiers à l'avoir fait, parce que André Marion et Anne Leurcourage avaient déjà découvert des écritures en 1997. Mais avec la technique que j'ai développée avec Éric de Baselaire, on a pu aussi voir d'autres écritures à d'autres endroits. Ces écritures ont été interprétées comme étant des textes hébraïques, araméens, qui voudraient dire « nous avons trouvé ». On peut rattacher d'ailleurs à l'évangile de Luc, où il y a un texte du Sanhédrin et dit par les dignitaires juifs qui étaient venus demander la condamnation de Jésus. Alors par exemple, une chose extraordinaire qu'on a découverte, c'est que l'image du dos au niveau des fesses est dupliquée. Personne n'avait vu que l'image des fesses était dédoublée. En fait, ça peut s'expliquer par le fait qu'ils ont certainement fait un pli sous les fesses, avec le linceul, pour mettre du coton et pour absorber les liquides corporels. Et chose curieuse, avec Éric de Baselaire, on a découvert la même chose sur un document qui s'appelle le Codex Prey, ou Codex de Prey. C'est-à-dire c'est un recueil d'enluminures de textes liturgiques avec des dessins. Et il est daté de 1192 à 1195. Et dessus, on voit le Christ représenté au tombeau. On voit sous son corps un pli, où justement ils auraient mis du coton pour absorber les liquides corporels. Et c'est justement grâce au traitement de l'image qu'on a pu observer ces choses, ce qui est passionnant.
Passionnant, certes, mais fort peu concluant. J'ai bien l'impression que les choses qu'on ignore dépassent de loin nos certitudes. L'enquête est décidément loin d'être close.
On ne sait toujours pas comment l'image a été formée. Si on analyse bien, finalement, avec un peu de recul, il y a trois images sur linceul. Il y a une image qui serait formée de liquide corporel qu'on retrouve maintenant sur la face verso. On voit une image très grossière, finalement c'est une silhouette. La deuxième image qu'on voit, c'est l'image du négatif, cette fameuse image qui est exposée donc lors des ostensions et qu'on traite et qu'on pourrait appeler d'ailleurs une image digitale ou binaire puisque la façon dont les fibres ont été cramées, c'est vraiment particulier. Ça ressemble pas à de la peinture, on ne connaît pas le principe, il n'y a pas de principe thermique. Et puis la troisième image, c'est l'image du sang. On voit des taches de sang sur le linceul, quand on les analyse, on voit bien que c'est de l'hémoglobine, mais on ne comprend pas si un corps, par exemple, a été allongé dans un drap et un corps saignant, il va se former des croûtes de sang, des caillots avec le tissu, et si le corps a été enlevé du tissu, normalement il y a un arrachement des fibres du sang, des caillots. Et bien là, quand on regarde le linceul, il n'y a aucun arrachement. Donc on ne comprend pas comment le corps ensanglanté a pu quitter un linceul. Il y a tout un tas de questions qui restent encore en suspens et qui font que on n'a toujours pas compris comment le linceul était fait.